Québec.
Mauvais. You ready for this?
Live. Très, 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 très bon.
Live.
C'est pas une blague, là.
En vacances.
Les meilleurs au monde.
Radio X.
Continuez de nous écrire au 88-670-9098. Même quand on vous lève le cœur, c'est toujours intéressant de vous lire.
Oui.
Il est à 8h20 minutes maintenant. Vous dire que de vendredi à dimanche, vous obtenez 20 fois les points chez Pharmaprix. Si vous ouvrez l'appli PC Optimum, magasiné, scanné, obtenez une remise en points de 30%. Les conditions sont dans l'appli. Je vous parle de ça parce que c'est eux quand même qui nous présentent cette circulation que je vais vous faire à l'instant. Tout va bien sur les routes dans la grande région de Québec. Roule, roule mon camion. Roule, roule à la maison. Nick Payne, comment ça va?
Hey, salut, ça va vous autres?
Yes. Numéro un, merci, merci, merci. Je reviens de vacances, fait quand même 3 belles semaines où on ne s'est pas parlé. Toujours en forme, Nick?
Oui, 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 oui. Toi aussi, t'as passé du beau temps dans notre grand Québec. Où t'as, parce qu'évidemment, t'as boudé les États-Unis. Là, t'es pas allé là-bas. Il faut avoir les coudes bien levés, hein, n'est-ce pas?
Oh, oui, non, non. J'ai pas boudé les États-Unis, mais je suis pas allé non plus. J'y vais cet automne. Je vais y aller plus qu'une fois, donc c'est correct. Non, non, j'ai déjà voyagé en masse depuis le début de l'année. Là. J'ai fait 2 semaines au Québec. Je me suis même rendu au lac Saint-Jean, aller voir le tigre de l'amour et c'était fabuleux.
Ah, c'est bien, bravo.
Ouais. Ben oui, merci Nick, c'est parfait. Parfait. Hey, faut qu'on revienne évidemment sur les gros sujets cette semaine. On va commencer par le sondage Palace parce que j'ai l'impression, l'image que je faisais ce matin, Nick, je sais pas si tu es d'accord, c'est le début du camp d'entraînement. Le premier sondage qui arrive après les grandes vacances estivales à l'aube d'une campagne électorale, c'est comme si on avait vu les joueurs mettre leur gilet de pratique puis sauter sur la glace pour une première fois.
Oui, c'est vrai, ben absolument, parce que il y a des limites à ce que ça veut dire. Une campagne électorale, on ne sait pas ce qui peut arriver là-dedans. Tout peut changer. Ça reste à voir, mais il peut y avoir des surprises. Il peut y avoir des joueurs étoiles qui se révèlent. C'est un peu comme les séries. Tu sais, tu peux avoir un joueur arrivé un peu à la dernière minute dans la saison dont on n'était pas sûr. Pensons ici à Charles Milliard, mettons, là. Et qui, finalement, se révèle et connaît une performance même des fois étincelante. Alors, on verra bien. Mais c'est vrai en même temps que c'est un sondage qui se situe dans la tendance lourde des derniers mois, avec une nouveauté quand même, là, c'est le glissement de la CAQ. Puis là-dessus, moi, je pense que la première donnée à retenir, c'est que la CAQ tombe chez les francophones de 6 points pendant que les libéraux grimpent de 4 points. Ça, c'est au-delà de la marge d'erreur quand même là, pour ce sondage-là. Puis moi, je trouve que ça colle assez bien avec ce qu'on nous dit quand on se promène justement dans le Québec, là, et puis quand on lit les commentaires ici et là, quand on entend ce que les gens pensent de la performance, du spectacle, j'ai envie de dire, de Christine Fréchette jusqu'ici, hein, les nombreuses annonces et tout ça, et le côté un petit peu à la fois beige et ambitieux, je dirais, là. On voit que là, ça a atteint sa limite, oui. Cette méthode-là. Les gens se souviennent quand même que la CAQ, c'est la CAQ. Et puis, en plus, elle aime pas tellement se faire prendre pour des imbéciles. Les promesses de chèques ici, de réduction là, je t'enlève la taxe sur les Joe Louis ou je sais plus quoi. Là.
Ouais, les muffins à prix individuel, oui, unique.
Oui, à moins de 6 ou plus. En tout cas, bref, je pense que là, ça a atteint sa limite. Et même, il y a peut-être un revers à ça, là. Un ressac. Et ce sont de mauvaises nouvelles. Puis la CAQ, il faut le dire, là, quand même, si la tendance se maintient, comme disait l'autre, elle pourrait avoir son plus mauvais résultat électoral de son histoire.
Bien, il y a eu une mise à jour de QC125 ce matin qui a été faite sur les projections de siège. Et puis, il en donne 4 à la CAQ.
Et c'est ça.
C'est une...
C'est pas chic, là.
Mais ça serait une 4...
Une catastrophe, tout à fait. Alors, ils sont mal pris. C'est vraiment ça la nouveauté du sondage. L'autre élément, je dirais, évidemment, qu'on ne peut pas éviter, c'est la solidité du PQ chez les principalement franco. Les francophones, hein? 34 % ou 32, je m'en vais tout de suite me mettre les chiffres sous les yeux, c'est ça, 34 % chez les franco, 19 % pour la CAQ et les libéraux ex aequo, loin derrière lui. Chez les francophones, 16 % pour du M, hein? 14 % au... ouais. De façon générale. Petite note avec un clin d'œil sur Québec solidaire, qui est à 12 % chez les franco, mais 3 % chez les non-franco. Messieurs, mesdames, les curés qui nous font la morale inclusive, mm-hmm. C'est curieux, hein? Mais finalement, ils parlent juste aux francophones.
Oui, puis ce que ça dit aussi, je pense que ce qu'on comprend tous actuellement de la part de Québec solidaire, c'est le charisme et la crédibilité qu'ont eu leurs quatre porte-parole au cours des 20 dernières années, il est difficile à retourner chercher. Là. Ruba Gazal et Sol Zanetti, dans la vue des électeurs probables de QS, n'ont pas la même crédibilité qu'avaient Françoise David, Amir Kadir, Manon Massé et GND.
À tort ou à raison, par ailleurs, hein? Parce qu'on a voulu présenter certains d'entre eux comme des pragmatiques ou des modérés, mais en fait, il y avait un peu le même programme que tous les autres, seulement il y avait une façon de le présenter qui était peut-être un peu plus adulte, je dirais. C'est ça qui est très difficile là, pour Ruba Gazal et Sol Zanetti, cette espèce de tonalité un peu cégep, un peu ado, je ne sais pas comment le dire sans être méchant, là, mais ça ne lève pas. Là. Vraiment, il y a un problème de casting, comme disent les Chinois dans leur cas. En tout cas, parlons pas trop longtemps de Québec solidaire, parce c'est désormais un parti qui pèse pas lourd.
Puis si on se fie au sondage, quand on parle des auditeurs.
Oui, c'est ça. Exactement. Surtout si on n'est pas à Radio-Canada.
Surtout, évidemment. Ben oui, non, effectivement.
Il faut bien le dire. Chacun son public.
Absolument, ça, t'as entièrement raison.
Il y en a pour tout le monde.
C'est ça. C'est ça. Ça, on est moins certains,
c'est c'est les éléments à retenir. Évidemment aussi, moi, j'ai retenu deux autres éléments principaux. Évidemment, Paul Saint-Pierre Plamondon, toujours perçu comme étant le meilleur premier ministre potentiel. D'assez loin, hein, Christine Fréchette avait monté et elle redescend. Ça va toujours pas bien pour Charles Milliard à cet effet-là. D'ailleurs, parenthèse sur les libéraux, c'est quand même le seul parti au monde, je pense, qui réussit à connaître un été catastrophique et avoir ses appuis montés, ce qui témoigne de la situation particulière du Québec, là, comme le
PQ. On s'entend-tu pour dire que les Anglos à Montréal, ils manquent d'originalité, hein?
Oui, ils vont te répondre qu'ils manquent de choix. Eux, c'est l'unité canadienne avant tout. Et pour eux, il n'y a personne qui est fiable là-dedans.
C'est sûr qu'ils manquent de choix parce que toutes les fois que quelqu'un a essayé d'écrouser, ils n'ont jamais voulu lui donner une chance.
Non, absolument. On peut penser à Éric Duhaime ici. Là.
Voilà, Éric Duhaime, lors de la dernière élection, a essayé très, très fort de parler aux Anglos de Montréal. Puis ils n'ont même pas passé proche de voter pour lui. Fait qu'à un moment donné, les gens se disent qu'ils mangent la merde.
Et la tendance se maintient. Il est à 7 % chez les non-francophones en ce moment. Remarque que c'est pas... en proportion de son vote total, c'est pas déshonorant par rapport aux autres partis, comparativement, par exemple, à Québec solidaire, mais c'est quand même faible. Mais écoute, déjà, il n'avait pas voté pour lui. Et là, en plus, il se dit autonomiste. Pourtant, hein, c'est une vision de l'autonomie qui est très canadienne, là, qui est tout à fait...
Absolument.
Qui est fondée sur... le sentiment d'aliénation fiscale, par exemple, c'est pas... Il carbure pas à la défense vibrante là, du français et de la nation québécoise, mais pourtant, le simple mot autonomiste, c'est encore trop.
C'est un autonomisme de conservateur. Là. Depuis qu'Éric Duhaime est à la tête du Parti conservateur du Québec, il y a même eu un rapprochement entre le Parti conservateur au fédéral et le Parti conservateur au provincial.
Oui, c'est ça. Alors, c'est très compatible... pourtant, avec l'esprit, l'objectif de l'unité canadienne, mais c'est encore trop pour eux. Alors, tant pis pour... Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Tant pis pour vous, là. Ils sont obligés de voter libéral. Alors, c'est comme ça, et ça ne bouge pas, ça n'a pas bougé, c'est pas une nouveauté. Un autre élément, tout de même, qui devrait préoccuper peut-être Éric Duhaime, c'est que chez les femmes, il est très, très loin... derrière, vois-tu, les hommes appuient les conservateurs à 20 %, les femmes à 8 %. ce qui va peut-être nous permettre un pont vers le sujet de l'avortement qui a été très dans l'actualité cette semaine, mais c'était pas ça au moment du sondage.
Non, c'est ça. Quand le sondage a été fait, ça avait rien à voir.
Non, ça n'avait pas sorti.
Non, ça illustre le fait que les femmes sont aujourd'hui, à l'heure actuelle, plus à gauche que les hommes, se méfient plus du parti, de la marque conservatrice en général. Elles sont assez étonnamment plus favorables au PQ que les hommes en ce moment. 34 % les femmes, 28 % les hommes. Mais vois-tu, chez les conservateurs, donc 8 % les femmes, 20 % les hommes. Alors, il y a ici l'illustration là, d'un phénomène sociologique. Il faut rappeler que les femmes, autrefois, étaient de droite plus que les hommes. Et cela s'explique par le fait que elles sont apparemment, d'après ce qu'on nous dit, d'après ce que tous les sondeurs expliquent et différents experts, elles sont plus réfractaires aux positions qui transgressent, qui peuvent être révolutionnaires ou qui peuvent soutenir un grand changement, un changement abrupt, si tu veux. Alors, autrefois, la droite, c'était la continuité. Aujourd'hui, c'est la gauche, hein, la conformité, le confort des choses plus... Enfin, du fait qu'on change moins, là. Alors, c'est peut-être ce qui explique aujourd'hui qu'elles sont... elles ont peur d'Éric Duhem en particulier.
Par contre... Vas-y, Dan.
Ben non, je veux pas que tu prises le sujet. J'allais partir ailleurs, Camille.
Non, c'est parce question. Que c'est l'épouvantail de l'avortement qui doit faire peur aux femmes. Là, parce que, tu sais, c'est sûr que si tu veux garder un acquis puis que traditionnellement, ben, on s'est battu pour le droit de vote puis pour l'émancipation féminine, ben, peut-être que c'est... Si tu sors tout le temps cette cassette facile-là, c'est pas sexy, là.
Non, c'est sûr que ça aide pas. Maintenant, est-ce que c'était vraiment dans l'esprit des femmes dans les derniers mois à propos des conservateurs de Duhem? Je le sais pas. Probablement que ça fait partie dans le bruit de fond. Hein?
Moi, je vais vous le dire, les gars, c'est un tag. T'sais, conservateur, pour moi, égale avortement, dans le sens que ça va être un sujet qui va toujours revenir puis qui va être encore une jambette pour les prochaines semaines
aussi. C'est une fake news. Hein?
C'est une no news.
Tu l'as dit, l'épouvantail. Ouais. D'ailleurs, dans les Simpsons, la semaine passée, dans la traduction québécoise, ils ont planté un épouvantail qu'ils ont appelé Cédric Duhem.
Ah!
Ah, mon Dieu.
Ah!
Oui.
OK.
Mais est-ce que tu es surpris que le A-word, qu'on soit arrivé avec l'avortement, bang, le 4 août, semaines avant le début de la campagne électorale, j'ai l'impression que ça a été devancé un peu. Puis, tu sais, je parlais avec un chroniqueur politique qui est venu un peu plus tôt ce matin, René, qui nous disait qu'il était présent, lui, à la campagne électorale. Puis, à la minute où Dom Dumas est rentré dans place pour assister à la présentation de son collègue, tous les journalistes se sont virés vers lui. Là, c'est comme devenu l'espèce de ver de terre au bout du... le ver de terre qui flotte au-dessus du lac. Là.
Oui, moi, je suis moins impressionné par la synchronicité. Bon, ça arrive maintenant, tant pis pour ceux qui veulent se servir de ça pour faire du millage, là, comme Martine Biron, parce que c'est un peu tôt, effectivement, dans la campagne. Mais bon, il y a peut-être certaines circonstances qui expliquent, de hasard, là, qui expliquent ça. Bon, on a déterré des tweets, si je comprends bien, à ce moment-ci, puis c'est arrivé comme ça. Mais ce que je remarque, moi, par contre, c'est que on a importé ça du fédéral dans le débat québécois. En fait, ça, c'est plus nouveau, là. Mm-hmm. Cette espèce de pièce de théâtre, de chorégraphie, la chasse aux sorcières. Aha! Quelqu'un ici a peut-être des idées qui sortent du prétendu consensus sur l'avortement. Et là, on part après lui pour le sonder bien comme il faut. Est-ce que tu penses vraiment ce que tu as dit? Est-ce que tu veux promouvoir? Est-ce que tu es en faveur d'une perte de droits pour les femmes? Est-ce que... etc., etc. Toutes les questions habituelles. Et là, deuxième acte, le chef conservateur sort pour dire... dans le meilleur des cas, il va dire « Oui, nous, ici, on est ouverts aux opinions qui peuvent être divergentes, mais notre position pro-choix est extrêmement claire. Elle ne changera jamais. Nous n'avons aucune intention de proposer des choses dans ce sens-là. » Puis là-dessus, il faut dire là, que Dumas a tout à fait raison de dire que c'est pas un sujet qui relève du palier québécois. Alors, on peut bien jaser, mais ça mènera jamais à rien. Cela dit... je pense que ce que veulent savoir les militants les plus fervents là, pro-avortement, c'est ce que pensent les gens. Même pas savoir s'ils ont ça dans leur programme, mais pour eux, c'est déjà problématique, entre guillemets, là, d'apprendre que quelqu'un a peut-être déjà eu une vision critique. Et là,
pourtant,
là-dessus...
les questions se posent. Ce qui est particulier,
c'est
que... OK, vas-y, je te laisse.
Bon, bien, regarde, j'y vais. C'est que là, l'argument, c'est on a déjà tranché cette question-là.
Oui.
Et là, il faut... Et puis j'espère qu'on va bien me comprendre ici, là. Il faut regarder les choses en face. Ce débat-là n'a pas été vidé. il n'a pas été fait. Il a été verrouillé à un certain moment. Et quand je dis ça, je ne parle pas de la question du libre choix pour les femmes et de leur droit de choisir ce qu'elles vont faire avec leur corps. Je parle de l'autre portion du débat qui est là. Elle existe. C'est une question philosophique sur notre rapport à la vie,
éthique,
à la conception. Et quand tu regardes les chiffres des sondages et des études qui ont été faites au fil des années, au Québec, au Canada aussi, aux États-Unis et ailleurs, en Europe notamment, c'est que l'appui à l'avortement dans le premier trimestre, si tu veux, il est massif. Au Québec, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, quand tu vas dans le deuxième et le troisième trimestre, ça chute de façon drastique, là. Les gens sont beaucoup moins à l'aise avec ça, pour des raisons, moi, qui m'apparaissent évidentes. C'est que tu te demandes à partir de quel moment le fœtus commence à être un petit humain qui
c'est ça.
Forcément, a peut-être des droits. Là, à l'heure actuelle, il n'en a pas dans le système canadien. Mais ce qui m'amène à la situation canadienne, qui est une anomalie, là, qui est tout à fait unique presque au monde, pas au monde, mais dans les pays, les démocraties libérales occidentales, nous n'avons pas ici de cadre. Il n'y a pas de loi qui encadre partout dans les pays d'Europe, même scandinaves, les pays évolués. Il y a des limites, non pas au-delà desquelles l'avortement est interdit, mais au-delà desquelles il faut traverser certaines étapes, remplir certains critères. 14 semaines, 16, 20 semaines, 24 semaines. Et tout le monde est bien à l'aise avec ça. Mais ici, on craint que d'ouvrir, que de laisser libre cours au débat sur de telles limites, c'est ouvrir la porte à l'interdiction pure, totale et complète de l'avortement. Alors, on préfère fermer le débat. Mais c'est là qu'est le problème. C'est que je pense que les militants pro-avortement les plus fiévreux, là, se magasinent des problèmes à long terme avec ça. À un moment donné, ça va finir par leur péter dans la face. C'est-à-dire qu'il va avoir trop de monde qui va vouloir en parler.
Mais
je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Peut-être dans 100 ans. Mais
peut-être, mais... Parce que il y a deux questions que se posait Doum Dumas. Puis c'est des questions qui se posaient il y a 8 ans, là. Okay? Sur les médias sociaux, c'est
en
les
effet,
vieux trucs
faut
qui sont sortis.
Aussi, là, oui. C'est pas la semaine passée.
Voilà. Là. La première, c'est les avortements tardifs après 24 semaines. Tu viens d'en parler. C'est des questions que le Conseil des médecins se pose aussi. Là.
Ouais,
le 24 semaines, c'est parce que c'est quelque chose. Mais c'est toujours le fameux, c'est le corps des femmes, on peut pas en parler, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. C'est toujours la même chose. Mais si les experts nous disent qu'après 24 semaines, il y a un problème, on dirait que dans ce dossier-là, les experts n'ont plus de crédibilité. Dans toutes les autres,
il y a tellement
de
problèmes qu'ils refusent de le faire au Québec, hein, soit dit en passant. Ces femmes-là devaient aller ailleurs.
Ouais.
L'autre chose, c'est qu'ils parlent des avortements sexo-sélectifs.
Ben oui.
Et puis là, on dit comment est-ce qu'on fait pour prouver que l'avortement est sexo-sélectif, donc c'est pas grave. Mais il n'y a rien de plus anti-féministe que les avortements sexo-sélectifs. Là.
Oui, parce que c'est toujours,
toujours
le
les filles.
Fait de choisir un gars parce qu'une fille, on trouve que ça a moins de valeur.
Exactement ça.
Que ce soit bel et bien importé ici à travers certaines cultures, c'est sans doute marginal, mais ça existe.
Puis l'autre
même chose pour les avortements tardifs. T'sais, on nous dit il y en a juste une vingtaine, une trentaine par année. Ben oui, mais c'est pas un argument, ça.
Puis l'autre chose qui m'écœure là-dedans, Nick, là, à un moment donné, il va falloir le dire pour vrai. Là.
Vas-y, Dan, dis-le.
Moi, je le connais, ce gars-là. T'sais, j'ai travaillé avec pendant 7 ans, Doum Dumas. Je le sais qu'il est pro-choix. En fait, n'importe qui l'a écouté, ne serait-ce que 30 secondes, sait qu'il est pro-choix. Là. C'est malhonnête des journalistes de Québec qui viennent nous faire croire qu'il n'est pas pro-choix. C'est vraiment malhonnête. Parce que quand on se promène d'événement en événement, ils n'arrêtent pas de nous dire qu'ils nous écoutent. Ben, si vous l'écoutiez vierge, vous le saviez qu'il était pro-choix. L'autre chose qui me dérange, c'est qu'au sein du Parti libéral, au sein du Parti québécois, puis au sein de la CAQ, des pro-vie, il y en a vierge.
Ah, ben oui, puis on a
puis jamais on n'entend parler.
Non, c'est ça. Bien, je vais mettre un baume sur ta colère, si tu veux. C'est que je pense qu'on assiste ici à un effet de bulle médiatique. C'est-à-dire que dans la caste médiatico-progressiste, là, bien pensante, qui dit les choses qu'il faut dire, là, c'est une grosse affaire là, de penser qu'on a trouvé quelqu'un qui est peut-être pas... tout à fait autant pro-choix qu'on le voudrait, mettons, on va dire ça comme ça. Mais je pense que chez le, entre gros guillemets, le monde ordinaire, C'est des questions de simple bon sens que pose Dom Dumas. Puis là-dessus, j'ai fait des publications, j'ai fait des sorties sur ça. Je m'expose là-dessus à me faire chicaner beaucoup. Puis à ma surprise, il y a beaucoup de monde qui vient en appui en disant des choses de gros bon sens, y compris beaucoup de femmes. D'ailleurs, j'ai pas parlé de ça, là, mais dans les sondages aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il est vrai de dire qu'il y a toujours un peu plus d'hommes qui sont réticents face à l'avortement que de femmes, mais pas tant que ça non plus. Les proportions sont tout de même presque égales, pour dire là, que c'est pas juste une question de patriarcat puis de rapport homme-femme puis de droit des femmes, la question plus philosophique là, sur... Mm-hmm. sur l'interruption de la grossesse, si tu veux. Alors, je pense qu'il y a une bonne moyenne de gens qui sont beaucoup moins excités par cette question-là que les haut-parleurs médiatiques progressistes. Là. Puis, évidemment, dans le cas des conservateurs, j'ai comme l'impression que ça ne les dérangera pas beaucoup.
Ben non, il n'y a personne qui est surpris de voir un conservateur qui a des positions conservatrices.
Non, puis quand tu vois qu'ils sont à 8%, notamment chez les femmes, par contre, c'est bien plate pour eux pour ce qui est d'essayer de faire des progrès dans ce marché-là. Mais je pense que ça devrait sonner une cloche. Je te dirais que Éric Duhem a réagi de façon extrêmement et peut-être trop prudente. Parce que quand tu valides à ce point-là le propos de ton adversaire, t'es un peu en train de dire qu'il a raison. Il y aurait peut-être moyen, à un moment donné, que quelqu'un, puis si c'est pas lui qui va le faire, que quelqu'un amène un autre son de cloche sur cette question-là, tout en restant pro-choix, si c'est ça qu'il faut. Il y a peut-être moyen.
Maintenant, on va parler un peu, on va descendre au sud de la frontière. Tu veux me parler de Abdul El-Sayed qui a été choisi par les démocrates dans le Michigan. Je pense que les démocrates sont complètement perdus, Nick.
Ben, c'est exactement ça. C'est que je ne veux pas me lancer dans une chronique politique américaine. Là, il y a des experts meilleurs que moi. Mais Abdul Rahman Mohamed El-Sayed, de son nom complet, il incarne quelque chose, tant de sa personne que dans le comportement des républicains qui l'ont élu, des démocrates, quel lapsus, qui l'ont élu pour...
Mais tu sais, en même temps, Nick, rappelle-toi qu'au Michigan, c'est dans cet état-là qu'il y a des villes où il y a des appels à la prière, là.
Ben voilà, ben tout s'explique. Mais tout de même, les démocrates ne sont pas tous des musulmans pratiquants, loin de là, là hein, ceux qui ont décidé de le choisir comme candidat. Alors, qui est-il? Que fait-il? Pour faire très simple, c'est quelqu'un qui affiche fièrement sa foi musulmane, qui joue cette carte-là, qui ne s'en cache pas, qui explique que pour lui, c'est utile électoralement. Il dit également, et c'est là que ça m'intéresse, il fait une espèce de synthèse musulman progressiste, si tu veux. Il dit « Je tire mes convictions progressistes de ma foi musulmane ». Et cette synthèse nouveau genre, qui est un peu celle de Zohran Mamdani à New York, même si... El-Sayed se dit un peu plus pragmatique, là. Il est moins, mais il est tout de même dans l'aile gauche des démocrates, il n'y a pas de doute là-dessus. On a ça au Québec. Hein? Haroun Boisy, il y a eu Dalila Awada qui jouait ce rôle aussi à Québec solidaire. Donc, c'est ces gens qui à la fois portent l'étendard bien haut de la foi musulmane et d'un certain progressisme et qui, bien sûr, sont virulents sur la question de la Palestine et d'Israël. C'est un phénomène là, vraiment qui est en train de s'installer en Occident et qui inquiète parce que on peut avoir l'impression que ce sont des porte-étendards progressistes, mais quand on regarde autour d'eux, c'est tout le temps la même histoire. Dans les fréquentations, les gens qui gravitent autour d'eux ou de leur campagne ou parfois de leurs époux, de leurs épouses, là, il y a du monde pas mal moins cute qui appuie le Hamas ou le Hezbollah en disant que c'est des combattants de la liberté, qui sont pas mal plus virulents sur l'islam l'interprétation qu'il faut en faire. Alors, ça peut être des sortes de chevaux de Troie, au fond. Hein? Ils peuvent être vus comme ça. Et là, quand tu vois que les démocrates se lancent là-dedans comme ça, tête baissée, tu te dis, mais ma foi... Trump, le Trumpisme va survivre à Trump et c'est loin d'être terminé, là, cet épisode républicain nouveau genre aux États-Unis, pour ceux que ça dérange, en tout cas. Alors, les démocrates devraient regarder dans leur cour avant de tout le temps blâmer tout le monde pour ce qui leur arrive. T'sais.
Absolument. Merci, Nick. Ce fut encore une fois un superbe échange, notre dernière de l'été, puisque c'est Doug Moret qui revient à partir de la semaine prochaine. L'été est fini.
On sera là la semaine prochaine.
Ben, on va être là sans faute.
L'été est fini, oui, dis-moi pas ça.
Non, non, mais je comprends que l'été n'est pas fini au plan de la température, mais au plan de l'actualité, tu sais, c'est...
Il n'a jamais commencé, hein, cet été-là... Beaucoup d'actualités politiques.
Oui, mais les deux dernières semaines ont été un peu plus tranquilles. On a vu que le monde est en vacances, mais là, il y a des annonces à tous les jours. Les journalistes qui vont rencontrer Paul Saint-Pierre Plamondon aujourd'hui, il va même répondre à des questions. Donc déjà, on le voit, là, tout le monde revient tranquillement, mais sûrement, au centre de l'actualité. Puis à partir de la semaine prochaine, ça va rouler tempête.
En effet, on n'aura pas beaucoup de chroniques sur les régimes amaigrissants ou l'odeur des désodorisants ou je sais pas quoi.
Non, effectivement, ça va être assez tranquille, l'huile de baleine, les rouges à lèvres, là. On n'entendra pas parler. Ça. Merci, Nick.
Salut.
Bye-bye. Bonne journée. Nick Payne, chroniqueur qui a passé l'été avec nous. Ça, c'est super apprécié. Nick, merci pour ça. Passé l'été avec nous à faire sa chronique à toutes les semaines. Tu seras de retour, évidemment, à partir de la semaine prochaine dans la nouvelle mouture de Montréal Live. Je vais peut-être avoir des choses à vous raconter demain là-dessus parce qu'on a notre première rencontre d'équipe officielle.
Oh!
Le nouveau trio aujourd'hui, donc c'est à suivre. Possiblement qu'il va se dire bien des niaiseries, mais aussi bien des choses sérieuses sur le nouveau Montréal Live. Le nouveau Montréal Live, c'est pas si nouveau que ça, là. Vous allez reconnaître, ça va être exactement le même show.
C'est une autre mouture.
À partir de 6h lundi matin. Il est 8h44 minutes maintenant. Ray de Sports débarque dans Montréal Live. Retour.
Montréal.
Wow. Restez là. On revient dans pas long.
Live.
Radio X.